Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette petite chronique du grand monde du travail, la chronique des temps modernes, nous allons parler d'un sujet particulièrement d'actualité, c'est-à-dire l'intox. L'intox qu'on nous fait sur les arguments pour casser notre système de retraite par rapport à des projections sur ce qu'on appelle la démographie, c'est-à-dire l'évolution de la population, et également l'intox sur des projections sur l'espérance de vie. Alors je tiens à m'excuser par avance, c'est un sujet assez complexe, où je vais donner quand même pas mal de chiffres, mais si je les donne pas, si je simplifie trop, vous pourriez m'accuser finalement de dire n'importe quoi. Donc, faut que quand même que je prouve un petit peu ce que je raconte. Alors, en matière d'intox, il y a plusieurs ordres d'intox. Il y a en particulier la question de faire référence à la démographie future pour justifier les restrictions à mettre en place. Or, la capacité à financer la retraite doit être avant tout mesurée en rapport avec les richesses créées et secondairement seulement par rapport à l'évolution de la population. Si je dis ça, c'est parce que les richesses créées dans notre pays depuis les années 50 ont été multipliées par 7. Donc on voit que la question, c'est la question de la répartition des richesses et pas la question de la démographie. C'est un sujet particulièrement important. Je dirais que c'est le sujet le plus important. Secondairement quand même, il faut essayer d'y voir clair sur ce qu'on nous raconte par rapport aux évolutions d'espérance de vie. On peut lire ici ou là que certains savants, alors on ne sait pas lesquels, hein, font des projections à 2047. Alors c'est intéressant de savoir qu'on est capable de dire ce qui va se passer dans 30, 40 ans. Et même, pour certains, des projections à 2070. Or, personne ne sait prédire l'avenir. Si je le dis, c'est parce que c'est justement le contraire qu'on nous explique. Alors, j'ai personnellement travailler sur cette question et j'ai contacté directement les scientifiques qui travaillent sur ces questions qu'on appelle d'épidémiologie ou de démographie, hein, qui travaillent à l'INSEE, qui travaillent à l'INED, qui travaillent à l'INSERM, ces trois organismes travaillant sur ces questions de santé et de statistiques. Voilà, ils me disent tous qu'ils travaillent sur finalement l'actuel et le passé, c'est-à-dire de dépouiller finalement ce qu'on sait des chiffres qu'on peut leur donner, mais en aucun cas, aucun de ces organismes ne prétend pouvoir prédire à l'avenir. C'est quand même important de le souligner. Alors, puisqu'on ne peut pas prédire l'avenir, on va quand même regarder le passé qui va nous éclairer sur cette question. Alors, on nous dit que l'espérance de vie augmente. C'est vrai globalement depuis l'après-guerre, mais c'est faux. C'est faux, en particulier depuis 5 ans. Hein. Et là, je vous donne quand même quelques chiffres. Depuis 5 ans, toute population confondue, sans tenir compte donc des catégories sociales, l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire depuis la naissance, chez les femmes a stagné, ça a plafonné. Elle a progressé seulement de 0,2% chez les hommes. C'est relativement peu. Hein. Alors ça, c'est l'espérance de vie depuis la naissance. Si on regarde l'espérance de vie à compter de 65 ans, c'est-à-dire à partir les gens qui sont déjà arrivés à 65 ans, dans les statistiques officielles, hein, celles de l'INSEE, hein, de la même période, c'est-à-dire depuis 5 ans, eh bien, l'espérance de vie pour les femmes a chuté de 0,1% et a augmenté de plus 0,1% pour les hommes. C'est dire que finalement, on a atteint, pour l'instant en tout cas, hein, on s'apatine, l'espérance de vie ne progresse plus depuis 5 ans en tout cas. Deuxième idée reçue, hein, qu'on veut nous mettre absolument dans la tête, hein, qu'on peut dire comme ça, c'est-à-dire qu'on serait tous centenaires, en tout cas on aurait un grand nombre de centenaires à venir dans notre pays. Donc là encore, une fois encore, je redis qu'on ne peut pas prévenir l'avenir, Mais par contre, on peut regarder le passé et on va regarder ces dernières années ce qui s'est passé en matière de centenaire. Alors l'INSEE nous donne pas de chiffres sur les centenaires, j'en ai pas trouvé, mais nous donne des chiffres quand même sur les plus de 80 ans. Et on peut pas être centenaire si on n'a pas passé le cap des 80 ans. Donc on va regarder ces chiffres de la population qu'on peut qualifier de la plus âgée dans notre pays, les plus de 80 ans. Eh bien, la population masculine des plus de 80 ans a cessé de progresser depuis 2014. Donc là encore, on tire droit, si on peut dire, hein, c'est-à-dire que ça n'évolue pas dans le bon sens. Pour ce qui est des femmes, eh bien, la population des plus de 80 ans a baissé depuis 5 ans. Alors, certes peu, hein, mais a légèrement baissé entre 2014 et 2017. Oui, là, c'est les chiffres entre 2014 et 2017. Ça s'arrête à 2017, tout simplement parce qu'il n'y a pas de chiffres actualisés en 2018. Donc, quand on regarde finalement, globalement, les plus de 80 ans dans notre pays, que ce soit les hommes ou les femmes, eh bien, finalement, on constate que ça n'évolue pas. Alors là, je vous ai parlé de la population générale, je vais parler maintenant des populations par catégorie sociale, puisqu'il y a de grandes différences. En effet, les moyennes de la population générale ne nous disent pas rien, finalement, du sort des plus exploités, entre, par exemple, les gens du BTP qui sont sur les chantiers, ceux qui travaillent la nuit, les précaires et encore plus les exclus. Eh bien, la question est réglée puisque depuis 2013 maintenant, il n'y a plus de statistiques par catégorie sociale. Donc ça règle la question. Finalement, il n'y a aucun chiffre à produire au-delà de 2013 par rapport aux catégories sociales. Alors pourquoi ? Eh bien, il y a une raison, c'est que finalement, il y a de très grosses disparités hein, entre les catégories, notamment entre les ouvriers et les cadres supérieurs. Il y a plus de 6 ans et demi d'écart d'espérance de vie. Alors évidemment, tous les chiffres qu'on nous balance à la télé, si vous êtes ouvrier, il faut déjà retirer 6 ans. Et ça restera une moyenne, évidemment. Et pour les inactifs, c'est-à-dire en gros les exclus, hein, ceux qui sont déjà plus dans le circuit du travail pour différentes raisons, de santé, de licenciement, etc., eh bien l'espérance de vie moyenne pour les exclus, ce que j'appelle moi les exclus dans les statistiques qui disent les inactifs, eh bien l'espérance de vie entre un cadre supérieur et finalement ces inactifs, elle est de 15 ans. Donc, vous voyez, si je cite seulement ces quelques exemples-là, qu'il faut faire attention aux moyennes, puisque les moyennes, c'est bien joli, mais vous n'êtes pas forcément dedans, en tout cas sur cette moyenne. Alors, comme c'est un sujet un petit peu compliqué, je vous propose de faire une petite pause musicale au milieu de ce sujet, avec une chanson humoristique, enfin moi je la trouve humoristique, une chanson de Riss et Barrier, L'enterrement, puisque quand on parle d'espérance de vie, ça se termine quand même toujours par un enterrement.
Billard, je la sens près de moi, son rimel fout le camp. Qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Toi qui ne venais jamais à mes rendez-vous de mon vivant. Tu ne te promenais jamais en auto seul avec moi. Aujourd'hui c'est fête, nous voilà réunis dans le même convoi. Tu m'as dit non toute ma vie, le jour de ma mort tu me dis oui. L'amour auquel je ne croyais pas est né le jour de mon trépas. Oh, qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Quelles sont belles tes fleurs, tu en as eu au moins pour 15 000 francs. Toi qui dédaignais tous les bouquets de roses que je t'offrais, Aujourd'hui c'est toi qui m'apportes une couronne signée regret. Moi j'ai pleuré toute ma vie, le jour de ma mort tu pleures aussi. Dommage que tu me dises je t'aime dans le langage des chrysanthèmes. Que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Moi qui voulais me foutre à l'eau chaque fois que tu me disais non. Je ne pouvais pas supporter l'idée de vivre sans toi. Mais je me disais, fais confiance au destin, ton heure viendra. Fallait que je défonce un platane pour que tu veuilles bien devenir ma femme. Tu vas voir comme ce sera coquin, tous les jours ce sera la Toussaint. Je la sens près de moi. Si j'avais su, je serais mort avant.
Je reviens vers vous après cette petite pause musicale pour continuer finalement mon petit exposé sur l'intox qu'on nous donne, que l'on veut nous asséner sur les questions de retraite en matière finalement de démographie et de nécessité soi-disant de casser finalement les conquêtes sociales. Alors, pour justifier de ces restrictions, on nous a sorti le papy-boom. Alors, le papy-boom, c'est quoi ? Eh bien, finalement, c'est la suite logique, en tout cas apparemment logique, du baby-boom de l'après-guerre, c'est-à-dire à l'époque où on aurait fait plein de bébés. Alors, officiellement, c'est pas moi qui le dis, hein, le papy-boom est dénommé ainsi pour ceux qui arrivent à la soixantaine dans la période de 2006 à 2035. Alors moi, j'ai des problèmes avec les mathématiques parce que ça correspond pas vraiment au baby-boom, mais en tout cas, c'est la définition officielle. Ceux qui arrivent donc à la soixantaine entre 2006 et 2035. Et on nous explique que le pic, finalement, de ce papy-boom est donné en 2017. Alors, ça tombe bien, parce que 2017, on a des chiffres. Alors, si on regarde ce pic de 2017 du papy-boom, c'est-à-dire une inflation, finalement, de soixantenaire, eh bien, on va le comparer à 10 ans précédemment. Et on s'aperçoit finalement, on voit pas grand chose, hein. Donc on compare le pic du papy-boom à son démarrage, 11 ans plus exactement, pas 10 ans, 2006, c'est les chiffres qu'on nous donne, hein. Eh bien entre 2006 et 2017, le fameux papy-boom, eh bien ça varie très peu, ça varie de 0,75% pour les femmes et de plus 1,33% pour les hommes. Donc ce papy-boom, moi j'ai quand même bien du mal à le voir en réalité dans les chiffres, d'autant plus que on nous explique en même temps que c'est lié à l'évolution de l'espérance de vie. Donc deux motifs pour une si faible finalement différence, hein, de l'ordre grosso modo de 1%, j'ai quand même bien du mal, sur 11 ans en plus, j'ai bien du mal à comprendre cette justification du papy-boom. Alors, encore une autre idée reçue, ça sera d'ailleurs la dernière que je développerai pour ne pas vous assommer avec mes chiffres, une autre idée reçue qu'on veut nous rentrer absolument dans la tête, eh bien, c'est le caractère inéluctable, j'allais dire inexorable, si vous voulez, que finalement l'espérance de vie va obligatoirement progresser, ce serait quelque chose de mathématique. Eh bien, c'est faux, ça peut l'être, mais ça peut être égal aussi le contraire. Contrairement à ce qu'on entend souvent, l'espérance de vie n'est pas liée principalement à l'évolution de la recherche scientifique. Ce n'est pas l'élément principal, c'est un élément bien sûr, mais pas l'élément principal. En amont, l'évolution de l'espérance de vie est liée au progrès ou à la régression des conditions de vie et des conditions de travail pour le plus grand nombre, et pas évidemment pour quelques-uns, puisque ce sont des moyennes. Ça, c'est en amont, c'est finalement la qualité de la vie, hein, au travail ou en dehors du travail. Et en aval, l'espérance de vie, finalement, elle est liée à la qualité de la couverture sociale et à la qualité, pour le plus grand nombre toujours, de l'accès aux soins. Ce sont les critères principaux. Alors si je dis ça, c'est pour dire que, évidemment, on ne peut pas savoir comment cela va évoluer à l'avance. Par contre, on peut regarder le passé. Je citerai simplement deux pays où, par exemple en Russie, avec la chute brutale de l'espérance de vie qui a eu lieu lors de leur changement politique, donc là il y a eu une chute très importante de l'espérance de vie, donc on voit la relation directe avec les choix politiques, hein, et plus proche de nous, finalement le fait qu'aux États-Unis, hein, eh bien il y a une baisse importante, enfin considérable, de l'espérance de vie depuis 2014 pour les hommes. Donc on voit bien à travers ces deux exemples que ça ne monte pas, ça ne progresse pas obligatoirement. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop assommé avec ces chiffres. Une conclusion tout de même. L'espérance de vie en France peut s'améliorer, et c'est bien sûr, c'est à souhaiter, s'il y a un progrès social, s'il y a une autre finalité sur les richesses à créer et la répartition des richesses à créer, s'il n'y a pas de guerre, pas de conflit majeur, s'il n'y a pas de catastrophe climatique. Voilà un petit peu les principaux ingrédients pour nous faire espérer, à condition bien sûr de pas seulement le souhaiter, mais d'agir pour l'obtenir. Voilà, c'était cette chronique, j'espère pas trop complexe, sur les questions d'espérance de vie et de démographie par rapport à la question des retraites. Et pour les petits curieux, ceux qui voudraient vérifier un petit peu tout ce que je viens de dire, eh bien vous pouvez le trouver sur Internet, hein, en tapant INSEE Focus numéro 157. C'est le Focus du 12 juin 2019. Je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah ben si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Oh.